Radio Kapi. Oh, Kapi. Belinda Bosuma pour le journal.
Félix Tshisekedi met en garde ceux qui soutiennent les tentatives visant à déstabiliser la RDC. Le chef de l'État congolais s'exprimait ainsi au 32e sommet de l'Union africaine hier en Éthiopie. Ebola a déjà tué plus de 500 personnes en 6 mois dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Révélation du ministère de la Santé. Ainsi, le maire de Butembo prend des mesures pour arrêter l'expansion de la maladie dans son entité. Et puis, contentieux électoral pour les législatives nationales, les audiences publiques sont en cours à la Cour constitutionnelle. Pour en parler, nous recevons Prince Lutumba, professeur des droits privés et judiciaires à l'Université de Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour. Le 32e sommet de l'Union africaine se clôture ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. La République démocratique du Congo est représentée par son président, Félix-Antoine Tshisekedi, qui participe pour la toute première fois à ses assises. Le chef de l'État congolais a prononcé son premier discours devant ses pairs et s'est entretenu avec certaines personnalités comme le secrétaire général de l'ONU et le président égyptien. Blaise Makas y revient sur le séjour du président de la RDC en Éthiopie.
L'un des moments forts de ce séjour du président congolais était son discours devant les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi a fait remarquer dans son discours au 32e sommet de l'UIA que la République démocratique du Congo ne peut pas continuer d'être victime de ses ressources naturelles.
Notre pays a tant souffert depuis qu'il est Congo. Les guerres meurtrières que nous avons vécues devraient interpeller toute l'Afrique et la conscience internationale afin de ne point favoriser ni sponsoriser toute tentative susceptible de faire revivre au peuple congolais les mêmes atrocités que nous cessons de décrier depuis plus de 20 ans. Il n'est donc plus acceptable que mon pays, le Congo, continue d'être indéfiniment victime de la convoitise de ses immenses ressources naturelles.
Le chef de l'État congolais laisse une porte grandement ouverte à ceux qui sont intéressés par les ressources naturelles de la RDC à travers un partenariat gagnant-gagnant. Bien avant, le secrétaire général de l'ONU et le président de la RDC avaient échangé sur les priorités du partenariat entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies, notamment la MONUSCO. Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi ont aussi échangé sur la sécurité, la paix et le développement de la RDC. Le chef de l'État congolais a aussi échangé avec ses homologues, membres de la SADC et le président ivoirien Alassane Ouattara sur les bien fondés de l'alternance politique en République démocratique du Congo.
Santé. La maladie à virus Ebola a dépassé le seuil de 500 décès depuis sa déclaration le 8 août dernier dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé. Les territoires de Beni et de Butembo sont particulièrement les plus touchés par cette épidémie. Devant l'expansion de la maladie, le maire de Butembo a pris un train de mesures pratiques, outre la sensibilisation communautaire, pour limiter les risques de contamination. Sylvain Kanyamanda en parle au téléphone de Jean-Pierre Elali Koko.
Premièrement, nous avons, lorsqu'il y a un cas de mort, le swab ou le prélèvement. On doit prélever, savoir si la personne est décédée de quelle maladie ou de quel fait. Si jamais il s'avérait que la mort a été causée par la maladie RDC Ebola, directement, il y a une deuxième activité, la désinfectation de la maison là où vivait le défunt. Deuxième activité, on doit vacciner. On liste tous ceux qui vivaient avec la personne, membres des familles, amis et connaissances qui étaient toujours avec lui, on suppose ils ont vécu ensemble, ils ont touché, et que donc ça démontre pour protéger la contamination, il faut vacciner tous ces gens-là pour couper la chaîne de contamination. Après ça, dernière activité, dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'enterrement digne et sécurisé.
Sachez justement que depuis le début de l'épidémie d'Ebola, dans les provinces citées, le cumul des cas est de 806, dont 745 confirmés et 61 probables. Dans son communiqué publié samedi, le ministère de la Santé indique qu'au total, il y a eu 505 décès et 273 personnes guéries, 190 cas suspects en cours d'investigation et 6 nouveaux cas confirmés à Katoa. Plus de 77 000 personnes ont été vaccinées. Notez aussi que des cas de maladie à virus Ebola ont été notifiés récemment au sein de l'armée nationale. En effet, deux militaires originaires de la zone de santé de Oicha et travaillant à l'aéroport de Butembo ont été identifiés comme cas confirmés d'Ebola le 12 janvier dernier. Les deux militaires ont passé 5 jours au centre de traitement d'Ebola et en sont sortis guéris. Par ailleurs, le monde entier célèbre aujourd'hui, 11 février, la journée mondiale des malades. À Kisangani, l'association des médecins catholiques a débuté hier avec les consultations gratuites des malades dans 3 sites, ainsi que la prise en charge de ceux souffrant du paludisme simple. Pour la seule journée d'hier, à la paroisse Saint-Esprit par exemple, 80 cas de paludisme simple ont été dépistés et au moins 70 cas négatifs. Ce qui est surprenant, déclare l'un des médecins traitants, c'est que beaucoup de malades s'ignorent. Docteur Igor Idoumou explique au micro de Jacques Moukonkolé.
Il y a ces malades qui viennent à la messe, mais qui se méconnaissent hypertendus. Nous avons pu dépister lors de cette première journée 27 cas d'hypertension artérielle, dont la plupart, il y avait des malades qui avaient déjà atteint le niveau d'une urgence hypertensive, donc une hypertension artérielle sévère, avec une pression artérielle de plus de 200 mm de mercure pour la systole. Donc cela dénote qu'il y a vraiment un vrai problème. Les malades ne se connaissent pas et ne bénéficient pas de soins de qualité et ils restent à la maison et ils viennent à la messe en prière. Ils peuvent développer des complications liées à l'hypertension artérielle que nous avons découvert ici fortuitement. Pour aujourd'hui, lundi, il est prévu, juste après la messe, c'est-à-dire aux environs de 10 heures, nous aurons deux équipes qui, une sera à la prison centrale pour la même activité et une deuxième équipe sera au centre Saint-Laurent chez les enfants pour pouvoir continuer le même paquet de prise en charge que nous avons voulu offrir aux malades à l'occasion de cette journée mondiale des malades.
Direction le Massissi au nord Kivu, des mouvements importants des populations sont signalés dans au moins 8 villages du groupement Bachalimokoto depuis près d'un mois. Ces populations disent fuir l'occupation de leur village par les combattants du NDC Guidon d'une part et les accrochages à répétition entre les groupes armés locaux d'autre part. Denise Lukeso.
Selon des sources dans la région, c'est depuis le 15 janvier dernier que ces mouvements massifs de population sont signalés. Il s'agit des habitants des villages Nyangé, Bibwe, Kivuye, Mpati, Kito, Luama, Kalungo et Kinyama, des villages du groupement Bachalimokoto dans les Massissi. Ces déplacés se seraient concentrés à Kalingera et Kirumbu, où ils vivent dans des familles d'accueil. Ces familles qui fuient disent les faire à cause des accrochages à répétition entre les groupes armés locaux qui occupent leur village. Il s'agit du groupe Nyatura et du NDC de Guidon qui s'affrontent régulièrement dans cette zone. Des sources bien informées affirment qu'un village peut être divisé et occupé de manière organisée par ces deux groupes armés qui administrent chacun sa partie. Un habitant de Nyangi, en fuite que nous avons joint, dit que lui et sa famille ont surtout fui l'imposition d'une taxe obligatoire de 1000 francs congolais instaurée par le NDC Guidon à chaque habitant, taxe appelée des rations. Goma, Denis Lukeso, Radio.
Dans l'actualité, sachez aussi que l'hôtel de ville de Kinshasa a désormais des nouveaux locaux. Ce lundi, un nouvel immeuble de 4 niveaux sera présenté aux différentes autorités du pays et au public kinois, construit sur fonds propres de l'hôtel de ville. Selon le conseiller technique du gouverneur de Kinshasa, les travaux ont débuté depuis 2016, exécutés par l'entreprise chinoise CEO. Billy Van Lutumba a visité ce bâtiment de près de 4 850 m². Son coût, $1 500 le mètre carré. Suivez.
Dimanche jusqu'à 16h, les avenues Colonel Ebeya, du marché et Tombalbaï contournant l'immeuble sont passées au peigne fin. Des balayeurs et autres personnels d'appoint s'affairent à mettre la propriété tout autour du nouvel immeuble, ou plutôt du nouvel hôtel de la ville de Kinshasa. Cependant, les nids de poules et flaques d'eau tout autour semblent ternir l'image de cette œuvre en pleine ville. Le bâtiment en soi dispose d'une 50aine de bureaux équipés des fauteuils estampillés HVK pour hôtel de ville de Kinshasa. Des couloirs et dépendances sont revêtus de marbre et des ascenseurs réservés au public et au personnel. Autre détail avec Bonek Kimina, conseiller technique du gouverneur de la ville de Kinshasa.
Au niveau du rez-de-chaussée, nous avons le parking pour les administratifs et les conseillers du gouverneur, ainsi que des locaux techniques, un grand centre pour la vidéosurveillance, pour la sécurisation des portes d'entrée. Alors nous avons deux grilles pour les policiers. Le premier et le deuxième étage, vous avez le bureau du gouverneur avec son personnel d'appoint, plus le conseiller qui l'entoure, le bureau du vice-gouverneur. Et le troisième étage est dédié au kinois. Une salle polyvalente qui peut contenir 500 personnes et une grande salle de buffet pour à peu près 250 à 300 personnes. Et au niveau de la toiture, c'est une terrasse que moi j'appelle une terrasse belvédère. Ça permet aux Kinois qui peuvent s'organiser des petites réceptions avec une vue imprenable sur la ville de Kinshasa.
Cet immeuble conclu, le conseiller technique du gouverneur vient satisfaire le besoin en espace des multiples services nés de la décentralisation au niveau du pays.
Et puis, le personnel de la société Congo 24 SRL menace d'entrer en grève dès ce lundi. Ses agents évoluent au sein de la télévision et Radio 50, un média privé émettant de Kinshasa. Certains réclament plus de 11 mois de salaire impayés et d'autres 14 mois. Pascal Massirika nous en dit plus.
Dans une lettre du 8 février adressée au chef de l'État, Félix Tshisekedi, avec ampliation au ministre de la Justice et du Travail, ainsi qu'au président de l'Union nationale de la presse du Congo, l'avocat des travailleurs parle d'une situation délibérément entretenue. Maître Eddy Mukadi Kantabilenga a saisi le directeur général Jean-Marie Kasamba en vue de régler ces litiges en urgence. Il fait remarquer, non sans amertume, que depuis 2016, les conditions de vie des travailleurs se sont détériorées alors que ce média de droit congolais fonctionne à plein régime. Cet avocat à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe affirme que le non-paiement des salaires constitue un enrichissement illicite doublé d'une exploitation de l'homme par l'homme. En réaction, Jean-Marie Kasamba déclare que les salaires sont payés au fur et à mesure depuis la semaine dernière et qu'il n'a reçu aucun courrier, ce que nie le journaliste. Pas de commentaire non plus sur l'élection d'une délégation syndicale réclamée à corps et à cri par les travailleurs de la radio et télé 50.
L'invité.
Comme dit dans le sommaire, les audiences publiques en contestation des résultats provisoires de la CENI pour les législatives nationales ont débuté le vendredi 8 février à la Cour constitutionnelle. Pour comprendre cette étape du processus électoral, Radio Kapi reçoit Prince Lutumba, professeur chef du département des droits privés judiciaires à l'Université de Kinshasa. Il s'entretient avec Billy Van Lutumba.
Maître Prince Lutumba, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons avec vous ici à la Cour constitutionnelle. Nous voyons qu'il y a les extraits des rôles, le contentieux électoral. Qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui dans la suite du processus électoral?
Merci pour votre question. Nos auditeurs doivent savoir que le processus électoral est un long processus. En effet, il y a la CENI qui fait le premier boulot. C'est celui d'organiser les élections et de publier ce qu'on appelle les résultats provisoires. C'est ce à quoi notre population a assisté dernièrement. La CENI a fait la publication des résultats, tant pour les élections présidentielles que pour les législatives nationales et provinciales. Alors, après cette publication qui n'est que provisoire, commence alors le contentieux électoral. Et ce contentieux électoral est tenu devant la Cour constitutionnelle pour les candidats présidents de la République et les candidats proclamés élus députés nationaux. Et donc, c'est ce à quoi vous assistez aujourd'hui. Et donc, ceux qui ont des contestations ont eu à introduire leurs requêtes auprès de la Cour constitutionnelle.
Et au niveau de la Cour, ça se passe comment?
Si un candidat estime qu'il a été injustement remplacé par une autre candidature qui n'a pas réalisé le nombre de voix voulues dans cette circonscription-là, et donc l'intéressé, la personne, le candidat qui s'estime lésé, introduit son recours sous forme de requête. Et cette requête est reçue par la Cour constitutionnelle, est reçue au greffe, et aujourd'hui, c'est le début des audiences publiques pour que la Cour constitutionnelle puisse examiner chaque dossier, chaque requête qui lui a été soumise. Et la Cour, comme vous le voyez, affiche des extraits de rôle et appelle les partis concernés, notamment par la voix de presse, et le parti comparaisse. Et le requérant expose les contenus de sa requête et la CENI réplique. Le candidat dont l'élection est contestée, s'il comparaît, peut également donner sa version de fait. Bien entendu, les parties intéressées peuvent plaider elles-mêmes ou bien assister de conseil, ou il y en a qui plaident par leur conseil, représentés par leur conseil. Et donc, après que la parole soit donnée à l'organe de la loi, le ministère public qui donne ses avis, la Cour prend l'affaire en délibéré et pour cela, elle dispose de 60 jours pour rendre sa décision. Donc, et la tenue des audiences et les prononcés, la Cour a 60 jours pour ce faire.
Et pendant ce temps, celui qui avait été provisoirement élu est en train de siéger au Parlement.
Oui, il siège au Parlement en attendant l'issue du procès. Et si la Cour se prononce en invalidant celui qui siège déjà, et donc celui qui siège déjà sera obligé de guerpir. Et la place sera réservée à celui que la Cour aura confirmé comme ayant été élu dans la circonscription.
Et au cas où la Cour arrivait à trancher les dossiers, est-ce qu'on se limite par là où il y a encore possibilité de faire appel?
Non, les arrêts de la Cour sont rendus en premier et dernier ressort. Ils ne sont pas susceptibles de recours. lorsque la Cour s'est prononcée, c'est ça le résultat définitif. La CENI a publié un résultat provisoire. La Cour rend public les résultats définitifs. L'arrêt de la Cour est signifié en même temps à la CENI que à l'institution au Parlement, n'est-ce pas? Donc, l'arrêt est signifié, la Cour signifie sa décision. La CENI est obligée de mettre en application cet arrêt-là.
Est-ce que c'est la même procédure au niveau de la députation provinciale?
Oui, députation provinciale, c'est la même procédure, mais seulement le juge n'est plus le même. Les députés, les contentieux de la députation provinciale se déroulent devant les cours d'appel, les sections administratives des cours d'appel.
Maître Prince Mutumba, Radio Okapi, vous dit merci.
Merci à vous aussi.
Professeur chef du département des droits privés et judiciaires à l'université de Kinshasa, Prince Lutumba s'entretenait avec Billy Van Lutumba et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.